intervenir.
Au 01 45 24 7000 avec d'abord Sylviane qui nous appelle de Bourges. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour France Inter et bonjour aux invités. Alors j'aurais une question à la fois très simple et donc complexe. J'aimerais savoir pourquoi au-dessus du cadavre annoncé du PS, les vraies idées de gauche, pourquoi sont-elles plus vivantes que jamais ? Confer, Hamon, Mélenchon, etc.
Merci Sylviane pour cette question effectivement simple et complexe. Ça vous fait rire, Jean-Pierre Le Goff?
C'est-à-dire que c'est une question interne à la famille, si j'ose dire. Bon, parce que j'étais frappé d'ailleurs dans le débat sur les primaires par les valeurs. Vous voyez, ouais. L'authenticité de la gauche, une vraie gauche, ouais. Charrenée, etc. C'est là où je disais quel est le rapport avec la réalité effective des préoccupations des Français. Si on avait eu affaire à une primaire présidentielle, c'est-à-dire désignant un candidat présidentiel, mais ça n'a pas été le cas à partir du moment où le président de la République s'est retiré. Donc on a eu affaire... Quel est le plus authentiquement de gauche par rapport à des gens qui sont un peu perdus? Alors on dit, y a une victoire de Hamon. Attention au syndrome Marché, si j'ose dire. Pour les plus anciens qui connaissent, à un moment donné, il y avait l'idée que Marché s'était replié sur lui-même, le Parti communiste, les meetings étaient pleins, on applaudissait à fond, et au moment des élections, on a vu la dégringolade. C'est-à-dire, le risque, c'est que cette gauche s'enferme dans l'entre-soi autour de Hamon, qui est une candidature de, de réarmement, entre guillemets, rassurance identitaire.
Ce débat, vous dites qu'il est interne, Jean-Pierre Le Goff, il occupe beaucoup d'espace à l'intérieur de la gauche. C'est une discussion permanente d'ordre religieux ou d'excommunication. Oui. Vous n'êtes pas de gauche. La gauche qui parle par la bouche de Manuel Valls n'est pas vraiment de gauche, Thierry Pêche. On entend ça énormément dans le débat politique.
Il y a plusieurs gauches, mais je comprends la question de votre auditrice, oui. Sylviane, parce que... Benoît Hamon ne dit pas juste n'importe quoi. Quand il se demande si le travail va se raréfier, il pose une vraie bonne question. Quand il se demande si on va dire adieu à la croissance, il pose une vraie bonne question. Je ne partage personnellement pas la réponse qu'il y apporte, mais ce débat doit avoir lieu. Et je comprends qu'il y ait dans la France de gauche l'envie de ce débat. Est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre en place des politiques publiques malthusiennes ou pas? Il faut prendre... C'est pas péjoratif dans ma bouche. Je pense que les politiques que propose Benoît Hamon sont techniquement, descriptivement, des politiques malthusiennes. Bon, ça séduit une partie de la gauche. Il faut avoir ce débat, il faut répondre correctement. Jusqu'ici, je pense qu'on ne lui a pas répondu correctement. C'est quelqu'un qui a une certaine exigence intellectuelle, il faut la saluer et lui répondre sur le fond. Voilà, je pense que effectivement, le travail va rester central dans notre société et qu'il commet une erreur d'appréciation là-dessus. Mais voilà, le débat doit avoir lieu.
Un petit mot de Thomas Legrand avant de...
Non, c'est pour répondre à l'auditrice qui se demandait, c'était sa question, pourquoi alors que la gauche de la gauche, cette gauche-là est revivifiée par le résultat de ces élections, on parle de son cadavre. Parce que maintenant aussi, cette gauche-là est représentée par deux fortes personnalités qui, à mon avis, auront du mal à s'entendre, qui sont Hamon et Mélenchon. Et donc, ça l'handicap pour mai 2017, à mon avis.
Claude nous appelle d'Orléans. Bonjour, Claude.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Merci pour vos émissions. Est-ce que le Parti Socialiste n'est pas mort de ne pas avoir su se réformer en grand parti social-démocrate, ce que réalise peut-être Emmanuel Macron de façon informelle en ce moment?
Merci pour cette question, Claude. Qui veut répondre? Jean-Pierre Le Goff.
Je pense que Emmanuel Macron a pris le créneau de la social-démocratie ou du social-libéralisme, comme on veut. Mais il a pris le créneau, ce qui a embêté d'ailleurs Valls, qui à un moment donné voulait le prendre, si vous voulez. Mais je pense que Macron, je le qualifierais, c'est une opinion évidemment personnelle, comme un objet politique encore mal identifié en période de décomposition des grands camps politiques. Et donc, il y a une espèce de structure d'accueil de ces différents éléments qu'il recompose à sa manière. Je dois dire, si je puis dire, ça prend la dynamique et jusqu'à présent de son côté. Et je dirais qu'il a intérêt, il n'a pas forcément intérêt à préciser beaucoup plus avant ses propositions, parce qu'à ce moment-là, le spectre de l'accueil risque de se refermer. Et je pense que le grand vainqueur des primaires, c'est lui.
Thierry Pêche.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est important chez Emmanuel Macron, c'est le libéralisme culturel et politique. On parle du libéralisme économique d'Emmanuel Macron. En réalité, Et sur ce point, je dois dire que la proximité avec Benoît Hamon est presque évidente. Pour le coup, l'antagonisme avec Manuel Valls, tout à fait évident aussi. Sur la laïcité, sur la conception du pouvoir, de l'autorité de l'État, sur le fait religieux, sur quantité de questions de cette nature, il y a un arc libéral, culturel et politique qui rassemble assez nettement, je trouve, aujourd'hui Benoît Hamon et Emmanuel Macron, et qui les distingue du reste de la scène politique. Qui les distingue fortement, notamment, parce que le discours de François Fillon hier, était, il fallait l'écouter, il n'y avait pas simplement « j'aime ma femme », il y avait aussi une espèce de plaidoyer sarkozyste sur les questions d'identité nationale et de sécurité.
Thomas Legrand.
Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-Pierre Le Goff, c'est quand même assez dramatique et c'est le drame de cette élection présidentielle telle qu'elle est. Vous venez de nous dire que pour que Macron puisse émerger et puisse peut-être gagner, il faut qu'il reste dans l'ambiguïté. C'est tout le drame. C'est tout le drame qu'a vécu le Parti Socialiste pendant des années, qui a fait des synthèses artificielles pour pouvoir gagner, qui lui empêchait de gouverner. Et maintenant, vous nous dites qu'il faut que Emmanuel Macron fasse la même chose.
Bah, on verra la suite.
Pour gagner,
parce que,
alors pour gouverner, ça sera un problème.
Parce que là, on est quand même dans l'inconnu. Pour l'instant, c'est ça. Il va falloir qu'il précise plus concrètement.
Oui, mais vous dites que s'il précise...
Le risque est là. C'est-à-dire, voilà. En gros, ce qui se joue, c'est assez clair. Enfin, il me semble, malgré tout, c'est qu'une partie des électeurs de Valls va se reporter sur Macron. On voit déjà des élus. Bon, il y a la question des législatives. Bon, c'est le chamboule-tout. Et une partie des déçus de François Fillon à droite, notamment autour d'Alain Juppé, vont aussi se reporter sur Macron. Donc on a la recomposition à terme, mon avis, d'un centre. Mais après les élections, ça prendra du temps. Tout ça va bouillonner pendant un moment. Et je crains d'ailleurs que dans ce bouillonnement un peu flou, en embuscade, on est toujours un peu Marine Le Pen, si vous voulez.
Alors, j'ai quand même un certain nombre de messages d'auditeurs qui nous reprochent, qui vous reprochent, messieurs, une tonalité un peu trop critique à l'égard de Benoît Hamon. Je vous cite quelques messages. Vironneau, quand Fillon est préféré à Sarkozy, a-t-on annoncé la mort de LR? Émile, pourquoi Hamon ne serait-il pas le recentreur de la gauche, tout frondeur qu'il soit? Rachel qui dit, ne peut-on pas reconnaître à Benoît Hamon une capacité à remobiliser une partie de l'électorat de gauche, électrice socialiste depuis ma majorité, je ne pensais plus jamais voter socialiste, et grâce à Benoît Hamon, je suis allé voter hier. La politique, n'est-ce pas aussi redonner de l'espoir aux citoyens?
Je comprends tout à fait ça, il a fait une excellente campagne, je ne vais pas redire tout le bien que j'ai dit de lui l'instant.
Le paradoxe pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est cette victoire de Hamon qu'on accompagne par ce débat sur les risques de crise pour la gauche et pour le Parti Socialiste.
Mais écoutez, je pense qu'il y a... Il faut quand même être réaliste. Prenons le revenu universel qui a fait rêver tant de monde. Il n'y a pas de revenu universel dans le programme de Benoît Hamon. Un revenu universel, c'est un revenu inconditionnel. Ce qu'il propose n'est pas un revenu universel. Il nous dit, revenu universel peut-être dans 8 ans, dans 10 ans, je ne sais pas combien, à terme. Voilà, l'expression à terme, ça veut dire jamais en réalité.
Il a introduit l'idée.
Non mais attendez, ce qui est proposé, il faut pas tricher avec les mots. C'est pas un revenu universel. Personne aujourd'hui sur la scène politique française ne propose un revenu universel.
Il propose pour les jeunes, donc pas universel.
Donc ça fait rêver, mais pour le moment c'est de la peinture et du décor.
Dire par rapport à la question de votre auditrice, enfin quitte à la choquer, je pense que c'est la question qu'elle pose est une question existentielle. Il y en a beaucoup comme ça, beaucoup d'ex qui sont totalement perdus. Alors il faut savoir si la question politique en démocratie devient une question identitaire ou la question de la politique en démocratie, c'est choisir à l'intérieur de possible en fonction d'une situation qu'on n'a pas choisie et d'agir sur le réel. C'est ça pour moi. Or la gauche, depuis longtemps, c'est, si vous voulez, c'est avancer comme étant le propriétaire d'une certaine idée du bien. Cette idée-là, elle est en morceaux aujourd'hui. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas fait leur deuil. C'est-à-dire qui résonnent en projetant sur la gauche la dimension existentielle. C'est une espèce de totalité d'identitaire. Alors, je comprends tout à fait que ces gens se sentent ravigotés par Hamon, si vous voulez. Mais il est concurrencé dans l'imaginaire identitaire par Mélenchon, qui est un tribun hors pair, qui joue sur l'imaginaire ancien du mouvement ouvrier, la Commune de Paris, 36, sauf que la situation, le réel est plus ça. Mais c'est pas grave, du moment qu'on se resserre. Eh bien ça, pour moi, c'est l'impasse au bout du compte de la gauche.
Thierry Pêche, en un mot, pour ce qui est de sa capacité à projeter un imaginaire de gauche, Jean-Luc Mélenchon est supérieur à Benoît Hamon?
Oui, ça, j'en ai peur. J'en ai vraiment peur. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est parti dans une direction assez fédératrice pour ceux qui ont besoin d'alcool fort et d'épices relevées. Voilà. Maintenant, c'est normal aussi que les gens aient envie de rêver. Quand Benoît Hamon parle de futur désirable, il répond à une aspiration très légitime. Après tout, il faut aussi avoir envie de l'avenir. Et je pense que c'est un des points positifs que Benoît Hamon a apporté dans cette campagne, c'est que dans un moment où la politique est quand même un étalage de scepticisme, il a, comme Emmanuel Macron, offert le visage de quelqu'un qui regarde l'avenir avec un peu d'optimisme.
C'est pas que des vieux identitaires qui recherchent, il y avait des jeunes qui n'avaient pas...
Absolument. Mais des jeunes particuliers qui sont notamment des jeunes diplômés, qui sont en situation par rapport à l'emploi. Parce que c'est quand même assez ciblé du côté des créateurs, des artistes, des jeunes de 18-25 ans, qui n'ont pas de boulot, qui attendent notamment dans les sciences humaines avec un discours assez radical.
Il a sorti toute une série de sujets qui sont de grands sujets de société. Le burn-out, les conditions de travail, la légalisation du cannabis. Moi, je suis favorable à la légalisation. Tout ça, voilà, Benoît Hamon, il incarne quelque chose.
On marque une pause de 30 secondes avant d'accueillir Augustin Trapenard et de retrouver Sophia Rame.